RCF.
Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur l'émission de philosophie Les Neveux de René, chemin de pensée. Nous continuons notre parcours avec l'étude du Gorgias de Platon. Vous êtes en compagnie de Nazim Fattès, Anne Bonneau, Sylvain Contasso-Vivier et Nicolas Lemoine qui va nous faire le résumé des épisodes précédents.
Alors l'émission précédente a débuté avec l'interview de Tonatiu Usace Sandova. Qui a d'abord été questionné sur nos premiers entretiens sur l'apologie de Socrate. Eh bien, il nous a reproché d'être allé trop vite sur la question du soin de l'âme. Et il nous a aidé, au cours de cet entretien, à discerner une notion très vague pour nous, cette notion d'âme. Faut-il la voir d'une façon totalement désincarnée, comme opposée au corps ? Il nous propose plutôt de retenir ce qu'en dit Aristote. L'âme est l'ouverture à ce qui est. C'est ce qui permet d'acquérir de la connaissance, de rechercher la vérité, et en cela, elle est le propre de l'homme. À la question « Que lire chez Platon ?», il nous répond « La République », qui pose la question de ce qu'est la justice et de ce qu'est une cité juste. Question intimement liée à une autre, qu'est-ce qu'une âme juste ? Pour Auguste Comte, philosophe du XIXe siècle, le soin de l'âme est le fondement de toute autorité spirituelle. Et autorité spirituelle qui est le modèle politique de l'Europe. Cette interview permet de mieux comprendre en quoi les rhéteurs ne prennent pas soin de l'âme. Leur procédé produit des convictions qui relèvent de la croyance, vraie ou fausse, et non de la connaissance. Ceci contrairement à la méthode de Socrate, du dialogue, qui, grâce à la confrontation de la parole de deux personnes cherchant sincèrement la vérité, permet de discerner le vrai du faux dans un discours, de mettre à jour d'éventuelles contradictions. Nous reviendrons sur les règles de cette méthode dans cette émission aujourd'hui. Nous avons ensuite médité cette phrase. Pour construire une cité juste, il faut savoir ce qu'est une âme juste. Quel homme politique dirait une chose pareille aujourd'hui ? Notre époque a un problème avec la notion d'âme. D'autant plus que le soin de l'âme est finalement justifié par Socrate par un mythe de rétribution post-mortem. La philosophie ne repose-t-elle pas sur la raison ? Nous y reviendrons aussi par la suite. A l'inverse, l'homme contemporain peut-il sans dommage ignorer tout ce qui relève du spirituel, tout ce qui a trait à la divinité, c'est-à-dire ce qui relève de la vérité intemporelle, de l'éternel. Il faut voir aussi les conséquences sociales du choix devant lequel nous met Socrate. On présente souvent comme un échec de Socrate le fait qu'il ait recours à un mythe, faute d'avoir pu convaincre autrement ses interlocuteurs. N'est-ce pas plutôt l'échec de la rhétorique ? Socrate a trois interlocuteurs dans le Gorgias, Gorgias lui-même, Polos et Calliclès. Gorgias accepte la discipline du dialogue et n'est pas seulement rhéteur car il n'est pas indifférent aux questions morales. Mais ses disciples, plus rien à voir. Polos ne sait pas dialoguer, ce qui oblige Socrate à développer tout seul ses idées. Calliclès, après son éructation initiale, refuse carrément le dialogue. Incapable de dialoguer, les communicants, les rhéteurs d'aujourd'hui, transforme la vie de la cité en un affrontement stérile, marque d'une manque d'assises, d'une manque d'autorité spirituelle. Et finalement, ce que dit Socrate, contrairement à ce qu'a affirmé Nazim au début de l'émission précédente, c'est que ces rhéteurs n'ont aucun pouvoir. Et nous y reviendrons aussi aujourd'hui.
Merci Nicolas. Donc voilà, tu as mis l'accent sur la chose qui nous avait, les choses différentes qui nous avaient occupées, et on était resté sur une différence. Je ne dis pas indifférent, mais sur le pouvoir de ceux qui ont la parole. Donc que ce soit au temps des Grecs ou dans notre temps à nous, de toute apparence, j'allais dire, ceux qui ont la parole, mais au sens le plus large, ceux qui ont les outils de communication, ceux qui ont les médias, aujourd'hui, il est incontestable que ce sont eux qui ont le pouvoir et qui décident de l'orientation de la société. Alors, ce dialogue de Platon, le Gorgias, semble dire le contraire. Alors, on va essayer de débrouiller les choses et d'essayer d'y voir clair dans ce qui paraît un paradoxe. Bien sûr, la philosophie part toujours de paradoxe. Alors, paradoxe, c'est paradoxa, hein, Doxa, c'est beaucoup de choses. C'est l'opinion commune, c'est ce qui se montre à moi, c'est aussi la gloire, c'est beaucoup de choses. Et un paradoxe, c'est ce qui est à côté, comme un paratonnerre, c'est ce qui fait tomber le tonnerre à côté de moi. Alors, peut-être pour se replonger dans l'ambiance du Gorgias, je vous propose que nous lisions un extrait du Gorgias. Donc, il est tiré de la version traduite par Monique Cantos-Perber dans l'édition Garnier Flammarion. Et Nicolas va lire dans le rôle de Socrate et Anne lira dans le rôle du méchant Polos.
Qu'est-ce que tu racontes, Socrate ? Ce que tu dis en ce moment, est-ce vraiment l'idée que tu te fais de la rhétorique ? Que te figures-tu ? Parce que Gorgias a été gêné de ne pas te concéder, que l'orateur ne pouvait pas ne pas connaître le juste, le beau et le bien, et qu'il a admis que, si l'on venait le trouver, tout ignorant de ses questions, ce serait à lui de les enseigner. Mais c'est à cause de cette concession, bien sûr, qu'il a eu l'air de se contredire. Oui, c'est cela qui te fait le plus grand plaisir, surtout si c'est toi qui y pousses avec tes questions. Non mais quoi ? Tu te figures qu'on va contester qu'il soit possible de connaître la justice et de l'enseigner à d'autres ? Eh bien, pour en arriver à parler comme cela, il faut vraiment être mal dégrossi.
Eh là, merveilleux Polos, heureusement qu'en pareil moment nous pouvons compter sur nos fils et nos jeunes collègues. Comme cela, si nous, les vieux, nous faisons fausse route, c'est à vous, les jeunes, d'être là pour corriger notre façon de vivre, dans les actes comme dans les propos. Surtout maintenant, si Gorgias et moi, nous nous sommes trompés au cours de notre discussion, toi, tu es là pour nous corriger. C'est même ton devoir. Et j'exige, si nous nous sommes mis d'accord sur un point qui te paraît faux, que tu me fasses rejouer mon coup, pourvu que tu m'assures une seule chose.
De quoi veux-tu parler ?
De ces longs discours que tu fais, Polos, comme celui dans lequel tu t'es lancé au début. Réprime-les.
Pourquoi ? N'ai-je pas le droit de parler autant que je veux ?
Ce serait bien terrible pour toi, mon cher, si dès ton arrivée à Athènes, la ville de Grèce où la liberté de parler est la plus grande, tu étais quand même le seul homme qui y connut le malheur d'en être privé. Mais regarde ce qui se passe de mon côté. Si tu parles trop longtemps, et si tu ne veux pas répondre à ce que je demande, ne serais-je pas à mon tour dans une situation terrible si je n'avais pas le droit de m'en aller sans t'écouter ? Voilà, si la discussion que nous avons eue t'intéresse, si tu veux y apporter des correctifs, je te l'ai déjà dit. Reprends ce qui te paraît être faux. Tour à tour, interroge, et puis laisse-toi interroger. Réfute, et puis laisse-toi réfuter, comme nous l'avons fait, Gorgias et moi.
Alors ça, c'est une illustration splendide de ce qui s'appelle la dialectique. Hein, d'accord ? C'est si je veux savoir ce qui est vrai, effectivement, la première condition, c'est d'accepter d'être réfuté, d'abord, et puis d'accepter aussi de dire à l'autre quand ça ne va pas, même si ça doit fâcher.
C'est ce que fait Socrate en pratique, puisqu'il accueille avec bienveillance l'objection de Polos. Polos dit si Gorgias a semblé être réfuté, c'est parce qu'il a accepté un point avec lequel je ne suis pas d'accord. Et Socrate dit très bien, réexamine son point et rejouons le coup pour nous assurer qu'effectivement, Gorgias et moi, nous ne nous sommes pas trompés. Mais alors, il pose des conditions.
Lesquelles ?
Eh bien, il pose des conditions. Eh bien, ne pas confondre le dialogue et le communiqué. Il y a une excellente citation d'Albert Camus qu'on trouve dans La Chute et qui dit la chose suivante. « Vous avez dû le remarquer, notre vieille Europe philosophe enfin de la bonne façon. Nous ne disons plus, comme au temps naïf, je pense ainsi, quelles sont vos objections ?» Nous sommes devenus lucides. Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué. Telle est la vérité, disons-nous. Vous pouvez toujours la discuter, cela ne nous intéresse pas. Mais dans quelques années, il y aura la police pour vous dire que j'ai raison.
Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Et Nicolas, je te propose qu'un jour on fasse une émission consacrée à Albert Camus, et notamment à La Chute, qui est une œuvre que je sais que tu apprécies grandement et que tu as lu maintes et maintes fois. Ton message c'était de dire ne pas confondre dialogue et communiqué. Voilà.
Et je pense, Sylvain, que tu avais une idée bien précise à ce niveau-là.
Entre le, par rapport au dialogue et à la
dialogue que, comme outil nécessaire pour rechercher la vérité. C'est-à-dire que si l'âme, c'est l'ouverture, l'ouverture à ce qui est,
tout à fait, oui.
Et en, le dialogue, c'est ce qui permet cette ouverture.
Oui, non, tu voulais parler. La question que je voulais vous poser simplement par rapport à ça, hein, juste pour préciser, c'est il faut toujours se placer de l'autre côté, à savoir quelqu'un qui a le pouvoir, pourquoi serait-il ouvert au dialogue ?
Ça, c'est...
Oui, Sylvain, tu veux...
C'était par rapport à la question de Nicolas, au final, concernant la dialectique. Effectivement, tout l'intérêt de cette dialectique, au final, c'est d'arriver à avoir une idée plus précise de la vérité en confrontant les opinions, donc les doxas de chaque personne. Puisque chaque personne va avoir une vision particulière du monde. Donc, chez les Grecs, hein, l'idée, c'est plutôt de dire que c'est le monde qui se montre d'une façon différente à chacun. Et c'est en confrontant ces images-là, c'est en confrontant ces différentes visions du monde qu'on arrive à avoir une idée beaucoup plus précise de la vérité que si on reste enfermé sur sa propre doxa personnelle qui ne nous donne qu'un aperçu du monde, en fait.
Alors ça, on trouve ça notamment dans un texte d'Anna Arendt.
Oui, tout à fait, on trouve ça très très clairement expliqué, vraiment très intéressant de Anna Arendt. Donc c'est un texte extrait du manuscrit d'une conférence qu'elle a tenue en 1954, hein, qui est encore inédite. Donc, Library of Congress, Washington. Donc, ça va apparaître aux éditions Tierce, apparemment.
Oui, enfin, on trouve ce texte sur l'Internet.
On le trouve sur Internet.
Et puis, ça s'intitule Philosophie et politique, je crois.
Oui. Voilà.
Alors, je repose ma question. Comment faire, la question platonicienne par excellence, pour que celui qui a le pouvoir, et par pouvoir, il faut entendre tout type de puissance, écoute. Comment vous pensez, est-ce qu'il y a pas une naïveté chez Platon, à croire qu'il va faire entendre raison par la méthode de la dialectique à ceux qui ont le pouvoir. Je ne sais pas, Anne, tu veux commenter ?
Oui, je vais essayer de commenter. Oui, effectivement, on a quand même l'impression, justement, on a l'impression qu'il est resté sur un échec après avec Caliclès, puisqu'il en appelle à la violence. Il donne des images de violence. Finalement, c'est peut-être la seule chose qui va arriver à convaincre.
Alors, qu'est-ce que tu dis violent ? J'ai rien lu de très violent chez Platon. Qu'est-ce que tu appelles violent ?
L'allusion au mythe final.
Oui, il y a beaucoup d'images très, très, très violentes. Je ne les ai pas marquées là, mais il y a beaucoup d'images très violentes et qui peuvent. D'ailleurs, il y a aussi un d'entre nous qui avait dit lors de nos ateliers que c'était très sanguinolent. Hein. On peut se dire que quelque part c'est un échec, cette manière d'arriver.
C'est sanguinolent, je trouve que c'est exagéré. C'est-à-dire, si on compare ça à l'Iliade, c'est beaucoup moins sanguinolent.
Doit-on comparer à l'Iliade ? Je ne sais pas.
Et pour répondre à ta question, donc maintenant, ça va peut-être nous amener au texte suivant, et peut-être après un petit intermède. L'idée, c'est que si le tyran décide seul, eh bien, il n'a pas une idée juste de la vérité, de ce qu'il convient de faire. Et le risque est grand qu'il se plante. Et que pour se maintenir malgré tout, il ait recours à une violence qui est la marque de son manque d'autorité, finalement.
D'accord. Est-ce que tu dis le risque est grand qu'il se plante, ou est-ce que finalement, il va se planter, inévitablement, parce que l'homme a quelque chose qui, s'il n'est pas éduqué, risque infailliblement de l'attirer vers le mal. C'est-à-dire, si j'ai le pouvoir...
On peut aller jusque-là, oui.
Oui, moi je pencherai. Même pour cette pour cette possibilité-là, en fait. Alors, on va faire une petite pause musicale et on reprendra pour la seconde partie de l'émission pour éclaircir cette question de se demander en quoi cette nécessité du dialogue, elle est une des façons de soigner l'âme. Vous êtes bien avec les neveux de René, Chemin de pensée. Nous continuons notre examen du Gorgias et nous allons lire un second extrait de cette œuvre.
Dis-moi à ton avis, les hommes souhaitent-ils faire chaque action qu'ils font ou bien ce qu'ils veulent n'est-ce pas plutôt le but qu'ils poursuivent en faisant telle ou telle chose ? Par exemple, quand on avale la potion prescrite par un médecin, à ton avis, désire-t-on juste ce qu'on fait, à savoir boire cette potion et en être tout indisposé ? Ne veut-on pas plutôt recouvrer la santé ? N'est-ce pas pour cela qu'on boit la potion ?
Oui, ce qu'on veut, c'est la santé, évidemment.
L'armateur, par exemple, comme n'importe quel autre négociant ou homme d'affaires, a-t-il le désir d'accomplir chaque action qu'il fait ? Non. Quel est l'homme, en effet, qui accepterait volontiers de traverser les mers, d'y connaître tous les dangers et tous les ennuis de ce métier ? Non, ce que ces hommes veulent avoir, à mon sens, c'est le bien pour lequel ils sont allés en mer. C'est la richesse qu'ils veulent, et c'est pour gagner cette richesse qu'ils se sont mis à naviguer.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, n'est-ce pas toujours comme cela ? Quand on fait quelque chose, ce qu'on veut, est-ce la chose qu'on fait ? N'est-ce pas plutôt le but qu'on poursuit en faisant cette chose ?
Oui.
D'autre part, y a-t-il un être qui ne soit ni bon, ni mauvais, ni neutre entre le bien et le mal ?
Non, nécessairement, toute chose est ou bonne, ou mauvaise, ou neutre, Socrate.
Or, les bonnes choses, tu dis que ce sont le savoir, la richesse, la santé, et tout ce qu'il y a dans le même genre. Et les mauvaises choses, elles, ce sont les contraires des bonnes.
Oui, en effet.
D'autre part, pour les choses intermédiaires, tu dis qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, qu'elles ont parfois un peu de bien, parfois un peu de mal, et parfois ni bien ni mal. Par exemple, rester assis, se mettre à marcher, courir, faire du bateau, ou encore, par exemple, des choses comme la pierre, le bois, etc. Est-ce bien comme cela que tu parles ? Sinon, de quelle autre réalité dis-tu qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises ?
D'aucune autre. Je le dis du genre de choses que tu as donné en exemple.
Or, ces actions neutres, quand on les accomplit, est-ce pour en retirer les biens ? Ou sinon, quand on accomplit des actions qui sont avantageuses pour nous, est-ce enfin d'en retirer un profit qui nous est indifférent ?
Non, on accomplit des actions neutres afin d'en obtenir des biens. Aucun doute là-dessus.
C'est donc le bien que ces hommes recherchent.
Je vous propose quelque chose, Posa. Est-ce que ça vous dérange ? Alors, je recommence. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Tu les enregistres tout de suite ? Oui. Alors, top. 5, 4, 3, 2...
Attends. Je sais pas où
168,
c'est.
Dis-moi à ton avis, au milieu de la page.
Ouais, d'accord. C'est Socrate. Mmh. Donc moi, je fais Polos.
Oui.
Ouais. Ok. C'est bon.
5, 4, 3, 2, 1, top.
Dis-moi, à ton avis, les hommes souhaitent-ils faire chaque action qu'ils font ? Ou bien, ce qu'ils veulent ? N'est-ce pas plutôt le but qu'ils poursuivent en faisant telle ou telle chose ? Par exemple, quand on avale la potion prescrite par un médecin, à ton avis, désire-t-on juste ce qu'on fait, à savoir boire cette potion et en être tout indisposé ? Ne veut-on pas plutôt recouvrer la santé ? N'est-ce pas pour cela qu'on boit la potion ?
Oui, ce qu'on veut, c'est la santé, évidemment.
L'armateur, par exemple, comme n'importe quel autre négociant ou homme d'affaires, a-t-il le désir d'accomplir chaque action qu'il fait ? Non. Quel est l'homme, en effet, qui accepterait volontiers de traverser les mers, d'y connaître tous les dangers, tous les ennuis de ce métier ? Non. Ce que les hommes veulent avoir, à mon sens, c'est le bien pour lequel ils sont allés en mer. C'est la richesse qu'ils veulent, et c'est pour gagner cette richesse qu'ils se sont mis à naviguer.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, n'est-ce pas toujours comme cela ? Quand on fait quelque chose, ce qu'on veut, est-ce la chose qu'on fait ? N'est-ce pas plutôt le but qu'on poursuit en faisant cette chose ?
Oui.
D'autre part, y a-t-il un être qui ne soit ni bon, ni mauvais, ni neutre entre le bien et le mal ?
Non, nécessairement, toute chose est bonne, ou bonne, ou mauvaise, ou neutre, Socrate.
Or, les bonnes choses, tu dis que ce sont le savoir, la santé, la richesse, et tout ce qu'il y a dans le même genre. Et les mauvaises choses, elles, sont les contraires des bonnes.
Oui, en effet.
D'autre part, pour les choses intermédiaires, tu dis qu'elles ne sont ni toutes bonnes, ni toutes mauvaises, qu'elles ont parfois un peu de bien, parfois un peu de mal, parfois ni bien ni mal. Par exemple, rester assis, se mettre à marcher, courir, naviguer, ou encore, comme exemple de choses, la pierre, le bois, etc. Est-ce bien comme cela que tu parles ? Sinon, de quelles autres réalités dis-tu qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises ?
D'aucune autre. Je le dis du genre de choses que tu as donné en exemple.
Or, ces actions neutres, quand on les accomplit, est-ce pour en retirer des biens ? Ou sinon, quand on accomplit des actions qui sont avantageuses pour nous, est-ce afin d'en retirer un profit qui nous est indifférent ?
Ah non, on accomplit des actions neutres afin d'en obtenir des biens. Aucun doute là-dessus.
Voilà. Alors, ce qui, moi, m'interpelle déjà une première chose par rapport à ce que tu disais, Nicolas, c'est on a l'impression que Paulos, il a vite appris la leçon, hein, parce que là, il fait des répliques brèves, il dit oui, il dit non, donc Socrate est tout à fait content. Bon, on passera là-dessus. Bon, bah, c'est comme ça que se présente un dialogue platonicien, il faut le savoir. Il ne s'agit pas de croire à la réalité véritablement du dialogue, hein. C'est une façon de présenter des idées philosophiques qui permet de donner de la vie, en fait, à un texte. Et autre chose qu'on peut remarquer, c'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent que la philosophie, c'est toujours des grands concepts, c'est des grands mots qui se terminent avec des ismes. Or ici, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de courir, marcher, faire du bateau, faire des affaires, et ainsi de suite.
Et on parle de bien aussi.
Et on parle de bien aussi, voilà. Donc, on a l'impression que le projet platonicien, c'est de dire aux êtres humains, votre âme n'est pas tourné du bon côté, votre regard intérieur n'est pas tourné du bon côté, et chercher à faire un espèce de pivotement. Et pivotement vers quoi ? C'est de ça qu'il s'agit de voir. C'est ça qu'il s'agit de voir. C'est-à-dire, peut-être qu'il semble nous dire, nous sommes obnubilés par la puissance, par la force, et à travers le Gorgias, c'est quelque chose d'autre qui veut se montrer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce qu'il essaye de dire, Platon, c'est que force, beauté, physique, tout ce qui peut nous attirer est voué à faillir tôt ou tard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est votre lecture de l'œuvre ? Anne, tu disais que parfois, il était un peu énervant à trop vouloir être dans le démonstratif.
Oui, il était énervant aussi sur le ton qu'il employait. Hein, on a l'impression qu'il y a un certain mépris vis-à-vis de Paulos. On a l'impression aussi, je parle du tout premier texte qu'on a lu, on a l'impression aussi qu'il lui dit « réfute-moi si tu veux », mais on sent très bien que Socrate pense que Paulos n'est pas de nature à pouvoir le réfuter et qu'il va le prendre dans les mailles de son filet.
Donc tu n'y crois pas à la démarche de Socrate, finalement.
Je n'y crois qu'à moitié, mais ce n'est pas forcément le Gorgias qui va me convaincre.
Nicolas, tu avais l'air de désapprouver ça.
Je pense qu'il faut prendre Socrate au sérieux. Et
je n'ai pas dit que je ne le prenais pas au sérieux.
Il n'est pas nécessairement menteur. Serait contre...
C'est pas ce que je dis.
Cette histoire concernant oui. Paulos, effectivement, ce que fait Socrate plusieurs fois d'ailleurs dans le Gorgias, c'est de rappeler justement les règles de la dialectique. Et ça, c'est important parce que c'est justement toute la démarche, en fait. C'est important parce que si on ne suit pas ces règles-là, on ne peut pas atteindre le but. L'objectif final, c'est d'atteindre une vérité. La vérité, en fait. D'essayer de l'entourer, de la préciser le plus possible. Le problème, c'est que si on ne suit pas des règles, justement, d'une certaine façon déontologique, un peu, pour arriver à ce résultat-là, forcément, on n'arrivera à rien. Donc, c'est pour ça que Socrate, à plusieurs reprises, s'oblige à rappeler les règles du dialogue pour que Paulos, ou même Caniclès après, et Gorgias avant d'ailleurs, suivent ces règles jusqu'au bout.
Et quand tu parles de ça, ça nous amène aussi à la question de savoir, par exemple, comment faire un régime réellement démocratique. C'est-à-dire que, effectivement, pour faire une démocratie, il faut des démocrates. C'est pas qu'une question d'établir des lois, mais il faut justement des personnes qui soient prêtes à dialoguer, à entendre et à accepter la parole libre, à accepter la critique.
Oui, c'est donc ça,
ouais. qui se traduit dans ces dialogues-là.
Il faut une objectivité importante là. Il faut vraiment que les personnes soient effectivement prêtes à être contredites, hein, et remettent en question leur propre doxa, justement, leur propre opinion de départ. Mmh. En se disant, bah, finalement, la réalité, elle est peut-être un peu différente de ce que je vois moi, mmh. et il y a peut-être plus de choses.
Mmh. Et je pense que là où le platonisme montre ses limites, c'est que finalement, on ne voit toujours pas pourquoi celui qui est puissant voudrait se faire contredire, au fond.
Il n'est pas puissant, il est fort. Il y a une distinction entre les deux, c'est-à-dire qu'il a effectivement suffisamment de force pour imposer son désir, mmh. pour imposer son bon plaisir,
oui.
hein, parce que Socrate parle de plaisir, mais il n'est pas puissant dans le sens où il ne peut rien parce qu'il ne sait même pas ce qu'il veut. Mmh. Parce que pour savoir ce que l'on veut, il faut passer par ce cheminement du dialogue.
Et il faut connaître la vérité, en fait, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'effectivement, seul, on ne peut pas forcément connaître toute la vérité, et donc on peut se tromper ses propres intentions.
Avant de nous quitter, je voudrais vous poser en ouverture la question qui est posée par Nietzsche, à savoir, est-ce que finalement la puissance, la volonté de puissance, ce n'est pas quelque chose qui se veut par lui-même et qui se suffirait par lui-même? Pourquoi l'être humain ne serait-il pas heureux, accompli, simplement dans l'acquisition d'un pouvoir supplémentaire? Voilà. C'est la question que Nietzsche posera au platonisme, et peut-être elle est plus actuelle et plus vivante que jamais. Voilà, je laisse chacun méditer là-dessus. Nous poursuivrons sur la discussion autour du Gorgias lors de la semaine prochaine. Merci, vous étiez en compagnie de Sylvain Contasso-Vivier, Nicolas Lemoine, Anne Bonneau et Nazim Fattes. Merci à Dominique Herpelding pour la technique. À la semaine prochaine.